Coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Bonne matinée à vous qui se prolongera, je l'espère, par un après-midi bien agréable. Et oui, bon, c'est vrai qu'il ne fait pas très très beau aujourd'hui, mais de l'eau de toute façon, il en faut. Et puis, même s'il y a des nuages dans le ciel, eh bien, ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de nuages dans votre vie. Alors c'est vrai qu'hier ce fut un dimanche un petit peu particulier, un dimanche solennel avec toutes ces cloches qui ont sonné en même temps à 11h et ce durant 11 minutes pour commémorer le jour de l'armistice et pour rappeler le sacrifice de la Première Guerre mondiale. Alors deux fleurs rappellent ces moments tragiques chez les vainqueurs, le bleuet de France et le coquelicot du Commonwealth. Alors le bleuet, une fleur sauvage choisie pour incarner le symbole national du souvenir, et le coquelicot qui dans les pays du Commonwealth est un symbole associé à la mémoire de ceux qui sont morts à la guerre, mais on en reparlera tout à l'heure avec Bertrand Trinel.
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà, comme je t'aurais dit, tu comprends pas. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Le bruit si fort que c'est un peu trop pour une histoire de coquelicot. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai pris, prise dans mes bras. Elle m'a donné son beau sourire et puis après sans rien de dire, dans la lumière de l'été, oh c'est aimé, oh c'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ce n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, je te le jure, qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion de coquelicot. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimer qu'elle n'aimait. Corsage blanc, juste à la place du cœur, et avec trois gouttes de sang qui faisait. C'était comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot. Comme un petit coquelicot, mon âme.
Beverly Jo Scott pour cette superbe chanson. Alors c'est l'air du temps avec aujourd'hui Jean-Louis Ouatté qui reviendra sur cette première conférence mondiale sur la pollution de l'air et qui s'est tenue à Genève le 30 octobre, du 30 octobre au 1er novembre. Alors et oui, il faut savoir que 91% d'entre nous respirons un air pollué. Et bien évidemment, nous sommes, nous, dans notre région des Hauts-de-France, les plus exposés à cette pollution. Mais ensuite, nous prendrons une bouffée d'air pur dans le jardin de Bertrand Trinel qui nous redira sans doute que l'arbre est le meilleur allié contre cette pollution. Et puis nous parlerons bien entendu jardinage, car même en novembre, notre petit lopin de terre nous réclame.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, voir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. ta robe à fleurs sous la pluie de novembre. Mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut.
Salvador sur Radio Plus. Alors, notre enquête dans l'air du temps, écoutez bien mesdames et vous aussi messieurs, selon une étude publiée dans la revue médicale American Journal of Epidemiology, excusez mon accent, les hommes qui pensent que leurs femmes ne les aiment pas ont 3 fois plus de risques que les autres de développer un ulcère. Et parmi les hommes souffrant de maladies cardiaques, ceux qui s'estiment aimés par leurs femmes présentent 2 fois moins de symptômes que les autres, a indiqué une autre étude. Alors si vous posez la question à un médecin, il vous donnera des explications scientifiques à ça. Il vous expliquera que votre cerveau et vos émotions jouent un rôle majeur sur notre rythme cardiaque et notre système immunitaire qui est dirigé par les hormones produites par l'hypophyse, une glande dans le cerveau. Et c'est vrai, les idées noires, le sentiment de ne pas être aimé perturbent la réponse immunitaire, mettent les artères sous pression et entraînent la production d'acides dans l'estomac qui peuvent favoriser un ulcère. Réciproquement, se sentir bien et en particulier se sentir aimé par son conjoint mais aussi par les autres membres de sa famille et ses amis stimule les capacités d'auto-guérison du corps. Alors, on vous le dit messieurs, on vous aime.
1, 2, 3, 4. J'ai envie d'escalade une montagne, d'aller à pied jusqu'au bout de l'espace, de me tatouer ton nom dans le dos pour toujours. J'ai envie de crier, de hurler mon amour. J'ai vu que je n'étais pas du tout en Espagne, mais j'ai choisi un arbre et gravé nos noms dans les corps, suivi de AST, amour sans divorce. J'ai allumé un feu sous ta bagnole et j'ai dansé autour.
en criant à tout va que ce petit feu n'est rien à côté de ce qui brûle en moi. Car je t'aime à la folie furieuse, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie furieuse, à la folie, oui, je t'aime à la folie furieuse, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie furieuse, à la folie, je t'aime à la folie furieuse, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie furieuse, à la folie, oui, je t'aime à la folie furieuse, je t'aime à la folie furieuse, je t'aime à la folie furieuse, à la folie.
Voilà, c'était Lise Chéral sur Radio Plus, et c'est là qu'elle l'embrasse, bien sûr. Et bien oui, comme le disait Guy de Maupassant, le baiser est la plus sûre façon de se taire en disant tout. Et j'ajouterai en se disant je t'aime. Mais attention, n'oubliez pas de respirer. Alors je comprends que dans le feu de l'action, la respiration devient presque secondaire, mais perdre la carte après un long baiser est un petit peu gênant. L'autre pourrait s'enfler la tête en pensant qu'il vous fait trop d'effet. Quoique, respirer n'est pas toujours sans danger, et Jean-Louis Ouatté nous explique pourquoi. Eh oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire. Alors d'après l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation Mondiale de la Santé, en 2016, 600 000 enfants sont décédés d'infections aiguës des voies respiratoires. Constat sanitaire très alarmant, et en effet, c'est ce qui tue le plus, respirer. Face à ces chiffres, l'OMS a pris l'initiative d'organiser à Genève du 30 octobre au 1er novembre 2018 une première conférence mondiale dédiée à la pollution de l'air et à la santé. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Martine.
Il y a quelques chiffres qui font frémir quand même, Jean-Louis.
Oui, tout à fait. L'initiative de l'OMS se fonde sur un constat sanitaire très alarmant. Il faut savoir que environ 91% des habitants de la planète respirent un air pollué, ce qui entraîne quelque 7 millions de décès chaque année. Donc même si dans la plupart des villes, la qualité de l'air ambiant est inférieure aux normes préconisées par l'OMS, dans certaines d'entre elles, il faut savoir que les niveaux de polluants sont plus de 10 fois supérieurs aux recommandations. Et puis, chose qu'on oublie souvent, c'est que quand on pense à l'air extérieur, mais c'est la pollution de l'air intérieur qui est une cause importante de mortalité, à la fois dans les foyers ruraux et urbains. Près de la moitié de la population mondiale utilise encore des combustibles et puis des technologies polluantes pour répondre à leurs besoins énergétiques de base et puis aussi pour les produits d'entretien.
Mais alors, bon, c'est une conférence sur le sujet s'imposait donc, mais peut-on espérer qu'elle soit suivie des faits ?
Bah, dans un contexte de montée des nationalismes, hein, du chacun pour soi, c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on pense aux États-Unis, hein, Donald Trump qui refuse toute contrainte malgré les nombreux accidents climatiques qui augmentent en Amérique du Nord, et on le voit bien en ce moment avec les incendies géants dans le ouest des États-Unis, hein. Donc on pense aussi à l'élection récente au Brésil, donc c'est pas très simple. Et il faut savoir qu'il n'existe aucune convention globale sur la pollution de l'air. En décembre 2007, donc c'est assez récent, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté une résolution sur la prévention et la réduction de la pollution atmosphérique pour améliorer la qualité de l'air à l'échelle mondiale, et dans laquelle elle encourage vivement les États membres à prendre des mesures et à diffuser des informations sur les conséquences négatives de la pollution et puis sur la nécessité d'agir. Alors cette conférence, faut savoir que c'est l'OMS, donc c'est quand même l'Organisation Mondiale de la Santé qui l'organise, qui prouve bien que là, on vit vraiment un problème de santé majeur, de santé publique.
Alors, je suppose que notre région industrialisée à outrance, Jean-Louis, n'est bien sûr pas touchée par cette déferlante de dioxyde d'azote et autres polluants.
Bah, un peu d'humour.
Oui.
À chaque épisode, il faut savoir qu'à chaque épisode de beau temps, la région a le droit à son alerte pollution atmosphérique. Hein. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont régulièrement placés en procédure d'alerte pollution, notamment en raison de pics de concentration en particules fines. Hein. Le Nord de la France et la Belgique respirent très mal. Hein. Greenpeace a sorti récemment une carte de données qui sont recueillies par un nouveau satellite de l'Agence spatiale européenne. Cette carte qui est sortie il y a environ une quinzaine de jours détaille en nuance de rouge la pollution au dioxyde d'azote. Hein, c'est un polluant majeur lié notamment à la circulation automobile et notamment au diesel, mais pas seulement. On y voit que le Nord-Pas-de-Calais et le Nord étouffé sous une chape orange, tandis qu'en Belgique, la carte rougit jusqu'à atteindre autour d'Anvers une concentration très critique à celle que l'on trouve autour de Paris. Donc, il faut savoir que cette carte, en plus, a été réalisée en été. Donc la pollution aux particules fines, elle est particulièrement forte dans la région, des particules fines, des poussières en suspension. Les mesures officielles ne s'intéressent qu'aux particules, ce qu'on appelle les PM10, c'est-à-dire un diamètre inférieur à 10 micromètres, et pour lesquelles on dispose de normes limites, de recommandations de l'OMS. Mais il faut savoir qu'on a des particules très fines, hein, ce que c'est les PM2,5, donc c'est des poussières de diamètre inférieur à 2,5 micromètres. Et pour ces particules qui ont alors malheureusement la capacité de s'infiltrer plus profondément dans l'appareil respiratoire, jusqu'au niveau des alvéoles des poumons, eh bien là on n'a pas de réglementation. Et le nombre de journées où l'air ambiant pollué avec cette concentration de PM2,5 est supérieur à la directive de l'OMS, eh bien, il faut savoir que c'est en constante augmentation. Les chiffres sont quand même là. En 2014, on avait 198 jours. En 2015, on en avait 197. En 2016, 216. Et en 2017, 223, soit 61% des jours de l'année, avec une pollution aux particules PM2,5 supérieure aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. Donc la situation est quand même assez alarmante dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Parce que avec Jean-Louis, des effets bien évidemment sur notre environnement et sur notre santé.
Tout à fait, puisque en fait ça touche ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Hein. On estime qu'un tiers des décès imputables aux principales maladies non transmissibles, c'est-à-dire les accidents vasculaires cérébrales, cancer du poumon, infarctus, bronchopneumopathie chronique, sont dus à la pollution de l'air. Les conséquences sur la santé sont les plus graves chez les femmes, les enfants, les personnes âgées et puis les gens en grande précarité. Et puis aussi, ça touche le changement climatique. Hein. Il y a de nombreuses stratégies d'atténuation des changements climatiques qui diminuent à cause de la pollution de l'air. Hein. Et donc, il faut savoir que la diminution de la pollution de l'air, ça réduit les émissions de polluants climatiques à courte durée, et notamment le CO2. Et donc, ça ralentit le changement climatique. Donc, les deux choses sont vraiment liées. Problème de santé, problème d'environnement.
Donc, évidemment, nous parlions industrie, nous parlions automobile aussi, bien sûr. Mais la pollution de l'air, comme vous le disiez tout à l'heure, est due aussi à un certain nombre d'autres facteurs.
Ah oui, la pollution de l'air, elle provient majoritairement des activités humaines. Dans la région, donc, on vient de parler des particules fines, elles sont issues des principaux contributeurs qui sont les transports, le chauffage résidentiel, l'agriculture, l'industrie.
Tout à fait.
Les pics de pollution aux particules sont liés au trafic routier et à la forte densité présente sur le territoire. Donc c'est des raisons multifactorielles aussi, et puis aussi les saisons. Hein. Les seuils sont généralement dépassés l'hiver avec des grosses consommations d'énergie, mais au printemps avec les épandages dans les champs. Et donc les phénomènes de dispersion des polluants vont avoir un rôle important dans la durée des périodes de pollution. Donc les polluants peuvent stagner dans les grandes villes, comme dans certains secteurs ruraux. Donc, faut savoir que le risque d'exposition n'est pas forcément moindre à la campagne.
Alors, la pollution est très variable, hein, on le comprend aisément, et ce, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Mais alors, justement, Jean-Louis, comment connaître le taux de cette pollution? Comment savoir si on est dans un jour pollué ou pas?
Bah, là, ça relève de l'information. Hein. Il faut savoir qu'on a des capteurs et on a des informations qui nous sont données sur les 5 polluants réglementés, hein, qui sont les particules fines PM10, l'ozone, le dioxyde d'azote, le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre. Et donc, eh bien, on a des réseaux, notamment Atmo Hauts-de-France, hein, qui est chargé de caractériser les périodes de pollution, et puis d'avoir des modèles de prévision avec un réseau de stations de mesure ces stations sont implantées en de multiples points du territoire régional. Et donc, mais malheureusement, souvent, les informations, c'est pour constater les dégâts, quoi.
Alors, comme dans tout problème, Jean-Louis, il existe des solutions à la fois collectives et individuelles. À la suite de cette conférence, y a-t-il des bonnes résolutions qui pourraient être prises ?
Bah, je pense déjà, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, hein, c'est la qualité de l'air intérieur. Hein. Lorsqu'on parle de qualité de l'air, la première image qui vient en tête, c'est celle de l'extérieur. Or, on vit la plupart du temps dans un lieu clos. Hein. Il est donc très important de prêter attention à la qualité de l'air dans ces endroits. Alors, il y a de nombreux facteurs qui peuvent venir dégrader l'air. Les produits d'entretien, les produits de décoration, les appareils de conduction, le tabagisme. Donc, une mauvaise qualité de l'air à l'intérieur, ça peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, de gorge, et puis ça peut impacter la concentration des personnes, et puis à plus forte dose, leur santé. Donc, c'est un sujet qu'on néglige trop souvent, mais la qualité de l'air intérieur est fondamentale.
Alors, nous devons, donc, comme vous venez de le dire, nous aussi nous prendre en main pour affronter l'ennemi, si je puis dire. Alors d'abord, quels sont les bons réflexes à adopter lors d'un épisode de pollution ?
C'est aussi les personnes les plus sensibles, hein, les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes qui souffrent de problèmes respiratoires, asthmatiques, ou bien les personnes qui souffrent de pathologies cardiovasculaires. Il faut faire attention, éviter les activités physiques et sportives intenses, hein, aussi bien autant en plein air qu'à l'intérieur. Hein. Reporter les activités qui demandent le plus d'efforts. Faut éviter les déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe, et puis prendre conseil auprès du médecin, des pharmaciens, et privilégier donc des sorties brèves qui demandent pas trop d'efforts. Éviter des sorties l'après-midi, c'est aux horaires qui sont les plus difficiles.
Les plus critiques.
Donc voilà, ça c'est les conseils pour les personnes les plus sensibles.
Alors on a compris avec ce que vous nous disiez précédemment, Jean-Louis, qu'il y a des bonnes habitudes à prendre pour respirer mieux et faire en sorte de ne pas polluer davantage.
Au niveau déplacement, il faut préférer les transports en commun quand on le peut. Hein. Il faut minimiser les déplacements à voiture, réduire la vitesse, hein, qu'on le veuille ou non, la réduction de la vitesse c'est un point important. Et puis essayer d'avoir des véhicules les plus propres possibles. Et donc quand on le peut, c'est pas toujours possible, mais par exemple si je dois me rendre à Lille, j'essaye de me rendre à la gare la plus proche, hein, que ce soit pour moi par exemple ici à l'Étrême, Béthune ou Armentières, pour prendre le train. Ça demande un effort, ça demande une organisation, mais c'est de bonnes habitudes à prendre. Alors je sais que malheureusement, on a de gros efforts à faire au niveau des transports en commun. La suppression des petites lignes va pas dans le bon sens. Et donc, c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à tout ça. C'est urgent.
Il faut vivre dangereusement, disait Nietzsche. C'est ce que nous faisons chaque jour, que ce soit en respirant ou en mangeant, n'est-ce pas ? Mais nous n'en récoltons pas les bonnes choses promises, bien au contraire. Jean-Louis, merci et je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci à vous.
Merci. Bonne semaine à vous.
Dépêche-toi de rire, il en est encore temps. Bientôt la poêle à frire, et adieu le beau temps. D'autres viendront quand même respirer le beau temps. C'est pas toujours les mêmes, mais y a toujours des gens. Sous le premier empire, y avait des habitants. Sous le second empire, y en avait tout autant. Même
même si c'est plus les mêmes. Tu t'en iras comme eux, tu t'en iras quand même, tu t'en iras chez eux. Dépêche-toi de rire, il en est encore temps. Bientôt la poêle à frire, et adieu le beau temps. D'autres viendront quand même respirer le beau temps. C'est pas toujours les mêmes, mais y a toujours des gens. C'est pas moi, c'est mes frères qui vivront après moi. Même chose que mon grand-père qui vivait avant moi. Même si c'est plus les mêmes, on est content pour eux. Nous d'avance on les aime, sans en être envieux. Dépêche-toi de rire, il en est encore temps. Bientôt la poêle à frire, et adieu le beau temps. D'autres viendront quand même respirer le beau temps. C'est pas toujours les mêmes, mais il y a toujours des gens.
Et quant à nous, eh bien, on se dépêche de respirer l'air du jardin avec Bertrand Trinel.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors novembre est particulier, hein, entre automne et hiver, ce n'est pas le plus beau mois de l'année pour cause. Hier, 11 novembre, c'était la Saint-Martin et en principe, comme le chantait Jean Ferrat, normalement c'est l'embellie. Ça n'a pas été tout à fait le cas, hein. Notre président a été bien arrosé quand même, hein. Normalement, l'été de la Saint-Martin, le 11 novembre, c'est une des plus belles journées d'automne. Et c'est pour cela que nos pères et grands-pères lui avaient donné ce nom. Mais en principe, d'après les dictons, c'est maintenant que l'hiver commence à s'installer. Et avant cela, il y a encore du travail, n'est-ce pas Bertrand? Mais auparavant, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant du 11 novembre et de ces deux fleurs symboles, le bleu et le coquelicot. Je suppose que vous avez entendu parler de ce grand mouvement citoyen qui s'articule autour d'un appel demandant la fin de l'utilisation des pesticides de synthèse avec ce slogan « Nous voulons des coquelicots ». C'est vrai que les coquelicots et les bleuets, ces deux fleurs symboles, alors sont-elles vraiment en voie de disparition, Bertrand ?
Alors, bon, les coquelicots et les bleuets sont des plantes messicoles, c'est-à-dire des plantes qui poussent dans les champs. En fin de compte, ce sont des fleurs des champs. Donc, alors oui, elles sont vraiment en voie de disparition. Hein. Dans le temps, on les rencontrait dans les champs de céréales, mais les herbicides sélectifs les ont quasiment éradiqués des champs de monoculture et tout ça. Hein. Donc, l'association Nous voulons des coquelicots lance un cri d'alerte sur la disparition des coquelicots et des bleuets, mais également sur la disparition de la biodiversité. Hein, il faut savoir qu'il faudrait qu'on revienne un peu de logique. Les champs n'appartiennent pas à quelques agriculteurs. Ils ne les cultivent que le temps de leur vie, leur passage sur terre. Et ce serait bien qu'ils laissent un peu la terre plus vivante que lorsqu'ils l'ont empruntée, mais c'est pas le cas du tout. Donc ça, c'est bien un peu dommage comme ça. Et concernant l'été de la Saint-Martin, je voudrais dire, c'est 6 mois plus tard, des teintes de glace. Les teintes de glace, c'est un nuage de particules qui s'interpose entre le soleil et la terre, qui refroidit la terre. 6 mois plus tard, c'est de l'autre côté de la Terre, donc ça réfléchit les rayons du soleil. D'où, normalement, un petit réchauffement.
Un petit réchauffement, quoi qu'il ne faisait pas très, très froid hier, mais enfin bon,
non.
On n'a pas eu le soleil pour autant. Alors, en tout cas, Bertrand, excusez, Bertrand, le coquelicot est une fleur qui mérite sa place dans les jardins au naturel.
Oui, effectivement, c'est une très très belle fleur, magnifique. Elle a forcément sa place dans un jardin naturel et parfois, comme dans le jardin associatif, hein, le jardin de l'ermite, elle pousse spontanément, elle est revenue spontanément pour notre plus grand plaisir. Mais au-delà de la beauté de la fleur, les plantes messicoles en général contribuent à la sauvegarde de la biodiversité. En nourrissant les oiseaux, en fournissant du nectar et du pollen à de nombreux insectes, dont nos abeilles domestiques. Hein. Donc la disparition des plantes messicoles, ça fait écho aussi à la disparition de nombreux oiseaux, de papillons, d'abeilles. Alors qu'elles soient domestiques ou sauvages, les abeilles disparaissent. De même que des grenouilles. Alors je ne sais pas dans quel monde on veut céder à nos enfants, à nos petits-enfants. Je me demande quel monde on va céder, mais c'est grave quand même.
Oui.
Alors moi, il y a une chose qui m'interpelle, c'est que quand j'étais jeune, il y avait des tas d'insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise de la voiture quand on roulait de nuit, souvent la nuit, hein, plus la nuit qu'encore que la journée. Maintenant, vous roulez, votre pare-brise va rester quasiment propre, il n'y a quasiment aucun insecte qui s'écrase. Ben, je pense que ça, ça devrait quand même nous alerter quand même.
Oui, tout à fait, mais bon, oui. Alors, on descend à présent au verger. Alors, la semaine dernière, Bertrand, vous nous avez parlé de calendrier lunaire. J'ai constaté qu'aujourd'hui, c'est un bon jour parce que je me suis penchée dans ce calendrier lunaire, n'est-ce pas? Un jour, il faudra que vous nous expliquiez, comme vous nous l'avez promis. Alors, j'ai constaté qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour s'occuper de l'ensemble de nos fruitiers. Alors, peut-on en profiter pour planter, par exemple, un groseillier à grappes et dans quel sol?
Alors, c'est tout à fait le bon moment, et c'est d'ailleurs le bon moment pour planter toutes les plantations, hein, que ce soit des arbres en pot, des arbustes en pot ou racines nues. Et pour ceux qui s'intéressent justement au jardinage avec la lune, bien, effectuez la plantation plutôt l'après-midi et en lune descendante. Voilà, alors le groseillier, c'est vraiment un arbuste facile, hein, très rustique. Il s'accommode vraiment de tout type de terre, bon, sauf excepté les terres trop pauvres, trop sèches ou trop humides. Mais alors, voilà. Alors, ensuite, vous le plantez de préférence en plein soleil. Hein, et puis environ... Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est bon pour tous les arbres qu'on repique ou les arbustes qu'on va repiquer. Hein. Environ 3 semaines avant une plantation, bon, on peut préparer le trou. On creuse un trou très, très large, hein, au moins 60-80 cm selon l'arbre ou l'arbuste, et autant en profondeur. Donc, bien sûr, la couche supérieure de terre, on la met sur le côté. On va bien décompacter la couche inférieure, hein, en dessous des 20 premiers centimètres. Et on va ressortir un peu toute cette terre. On va mélanger cette terre à du terreau. On peut la mélanger également, si vous avez de la poudre de basalte, à de la poudre de basalte. Pour un trou comme ça, on peut mettre au moins 2 kg de poudre de basalte. Hein, et puis mélanger un peu de compost. Et puis vous allez noyer le trou avant de remettre le mélange. Vous noyez le trou complètement, vous laissez s'infiltrer l'eau. Vous remettez le mélange que vous avez fait avec le terreau, la terre végétale, et puis le basalte, la poudre de basalte, et vous renoyez encore. Et puis 3 semaines plus tard, bah, vous n'avez plus qu'à planter vraiment votre groseillier. Et il va pousser vraiment de façon formidable, vous allez voir.
Alors, mais vous dites la poudre de basalte, ça se trouve dans des jardineries?
Je sais pas. Franchement, dans les jardineries, on a du mal à en trouver. Moi, avec l'association, on l'a fait revenir d'Allemagne.
Ah, d'accord.
Par palette, hein, parce que... Mais normalement, il faudra en trouver, parce qu'il faudrait essayer de réclamer aux jardineries d'en mettre...
Mais alors, quand vous avez rebouché le trou, vous nous dites?
Oui, alors on rebouche le trou, on noie le trou, et 3 semaines plus tard, le trou a été préparé 3 semaines avant, 3 semaines plus tard, vous arrivez, vous n'avez plus qu'à écarter la terre.
Écarter la terre, d'accord.
Et mettre votre pot dedans, bien sûr, après envoyer le plastique, et surtout, après avoir fait tremper pendant quelques minutes la motte dans un seau d'eau.
Tout à fait.
Pour que ça se réhydrate bien.
Alors justement, parlons de terre, Bertrand. Je me souviens qu'autrefois, aller chercher des poireaux dans le jardin par cette saison était une punition. Hein. Ils étaient pleins de terre, on prenait un tisonnier pour les déplanter, on en mettait partout. Mais une fois dans la cocotte, bon, c'est vrai que on n'y pense plus. Alors, c'est un légume que l'on peut cuisiner, ce poireau, de multiples façons. Et c'est que le poireau est le légume d'hiver par excellence. Alors, quelques conseils, Bertrand, pour en profiter le plus longtemps possible et encore en profiter jusqu'en hiver.
Oui. Alors déjà, quand vous plantez les poireaux, on va commencer par la plantation. Vous faites une tranchée d'environ 4 cm de profondeur. Vous noyez d'eau la tranchée. Vous laissez l'eau s'infiltrer. Et ensuite, si vous avez une grelinette, une actibèche, tout ça, ça fait à peu près 6 dents, ben vous enfoncez les dents au fond de la tranchée, sur toute la ligne. Vos trous sont faits rapidement. Ça va très vite à faire. Et puis au bon écartement. Il vous suffira d'introduire les plants, et puis d'arroser, et puis l'eau à faire va combler tous les trous, et ensuite vous n'avez plus qu'à refermer la tranchée. Alors, il faut aussi éviter que les poireaux soient attaqués par les vers du poireau. Donc, avant de les mettre en terre, vous devez les habiller. Donc, les habiller, c'est couper les racines, couper un peu les feuilles, et puis vous les laissez sécher deux jours, comme ça, sur le sol. Puis vous les mettez dans les trous que vous avez faits, hein, et puis là, les poireaux seront endurcis parce qu'ils sont séchés sur la terre, donc ils seront endurcis. Donc ils seront moins attaqués. Mais si néanmoins ils sont attaqués par les vers du poireau, bah, coupez-les au ras du sol. Vous coupez tous vos poireaux au ras du sol. Vous brûlez tout, vous avez enlevé, ou vous mettez à la déchetterie, mais surtout pas dans le tas de compost. Hein, et puis vous verrez, vos poireaux vont redémarrer, ils sont très beaux. Donc à l'automne, C'est le moment où on va aller chercher les poireaux, bien sûr. Mais vous pouvez mettre une bonne couche de paille entre les poireaux. Et ça, ça va laisser la terre hors gel. Donc vous pourrez récolter, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez dans votre jardin écarter la paille, récolter vos poireaux parce que la terre ne sera pas gelée.
Tout à fait, d'accord.
Vous pouvez aussi les retirer complètement, les mettre en jauge très serrée dans la terre, mais dans une serre ou dans une couche, et là vous les prenez comme vous voulez.
Alors novembre, c'est le mois durant lequel, comme vous nous l'avez conseillé, il faut faire un petit peu de ménage, rabattre les vivaces à 10-15 cm du sol par exemple, mais surtout Bertrand, comme vous nous l'avez dit ces semaines précédentes, faire ceci en pensant aux oiseaux. Alors, c'est-à-dire ne pas couper par exemple toutes les vivaces, il faut leur laisser à disposition des graines, des plantes montées en graines.
Ah bah bien sûr, il faut surtout pas couper toutes les fleurs. Parce que certaines vont produire des graines qui sont très appréciées des oiseaux. Par exemple, les chardonnerets se régalent des graines de cosmos. Hein, si vous avez des cosmos chez vous qui sont en graines, vous verrez parfois il y a 10, 15, 20 chardonnerets qui viennent. C'est quand même un oiseau magnifique, c'est super. Si vous avez semé des tournesols, vous avez dû remarquer la disparition rapide des semences. Hein, ils ont fait aussi de délicieux repas pour les mésanges. Donc, avant de nettoyer les parterres, laissez les graines aux oiseaux. Il sera toujours temps après leur passage de nettoyer. Hein. Il n'y a aucun problème. Après, ce que je vais rajouter, c'est qu'il n'empêche pas que les oiseaux ont besoin de nourriture supplémentaire pour passer l'hiver. Genre, je le dis souvent, mais nourrissez-les. Hein. Apportez de la graisse, de la bonne graisse, des graines, de l'eau. Hein. Et puis, les années venues, si vous mettez une mangeoire pas très loin de la fenêtre, ça va vous réjouir toute la journée. Là. Si vous regardez ce spectacle magnifique, les oiseaux qui viennent chercher les graines.
Alors justement Bertrand, en parlant d'oiseaux, les cigognes du jardin de l'ermite, qui est, je le rappelle, le jardin entretenu par votre association des paysages et jardins des hommes, sont-elles reparties pour des cieux plus cléments?
Alors normalement les cigognes migrent justement vers des cieux plus cléments, hein, souvent en Espagne ou en Afrique, mais seulement avec le réchauffement climatique, il arrive qu'elles deviennent sédentaires. Et même si elles ne sont pas dans le nid, elles restent dans le coin, pas très éloignées, et la semaine dernière, il y a un couple qui a passé la nuit sur notre plateforme. Alors, est-ce que c'était le nôtre ou pas le nôtre? On n'avait pas les jumelles adaptées pour voir la bague. Mais bon. Donc, en tout cas, on attend avec impatience le mois de mars et leur retour. Et puis, bon. Et puis, d'ici là, on va certainement planter une seconde plateforme. Donc, on espère avoir deux couples.
D'accord. Ça vous plaît d'avoir des petits cigognos, hein?
Ah, tout à fait. C'est quand même très bien d'avoir ça, quand même.
Eh bien, merci Bertrand Trinel. Et allez, donc, on a compris, tout ce jardin, à nos bêches, râteaux, plantoirs et autres outils de jardinage. Alors, c'est vrai que notre jardin a besoin de nous en ce mois de novembre. On se couvre, on y va et on respire au moins un air un peu plus sain que celui que nous décrivait Jean-Louis Ouattet, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et on plante des arbres.
Et on plante des arbres, oui, tout à fait. Ça, c'est évident. Vous nous l'avez déjà rappelé moult fois. C'est vrai que les arbres absorbent le gaz carbonique et c'est très très important.
Tout à fait.
Merci Bertrand. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci Bertrand. Au revoir.
Bravo.
Quand il est mort, le poète. Ce qui serait bien, c'est
prendre des coups de courant avec cet énervement.
Psst.
Avec mes 100 000 volts, c'est un coup de circuit. Je pense qu'il serait bien, c'est... Oh, c'est énervant, ça. Décidément. C'est qu'on chante ensemble, ce serait bien quand même. Mais il faudrait que vous chantiez bien. C'est-à-dire que je veux dire par là, c'est que tout le monde nous chante, mais très, très piano, pas comme d'habitude, pas fort, mais très piano, mais tout le monde. C'est que chacun, même dans les coins, là-bas, même si vous n'osez pas, il faut le faire quand même pour chanter pour soi. Et chacun son tour. Vous allez voir, quand il est mort, le poète. À toi. Tous ses amis. Tous
pleurer, ouais.
Quand il est mort, le poète.
Le monde entier,
le monde entier,
le monde entier pleurait.
On enterra son étoile.
Dans un grand champ,
dans un grand champ
de blé, ouais.
Et c'est pour ça à que l'on trouve.
Dans ce grand champ,
dans ce grand champ,
dans ce grand champ des bleuets, la 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 la, champ, champ.
Où on allait cueillir les bleuets, les coquelicots dans les champs et les forêts. C'était Gilbert Bécaud sur Radio Plus. Alors je disais qu'il ne fallait pas se priver de respirer au jardin. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé d'air aujourd'hui et des effets néfastes de cet air pollué sur notre santé. Et le fait du hasard fait que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la pneumonie. Cette journée a pour but de sensibiliser à la pneumonie en tant que problème de santé publique et de contribuer donc à la prévention de milliers de décès évitables d'enfants qui surviennent chaque année. Alors les chiffres sont absolument effarants, encore une fois. 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans décèdent ainsi tous les ans de la pneumonie, soit 1 toutes les 20 secondes. Maladie respiratoire d'origine virale ou bactérienne, la pneumonie se manifeste par une forte toux. Sa forme la plus fréquente est causée par le pneumocoque. Il est possible de s'en protéger grâce à un vaccin obligatoire chez les nourrissons et ce depuis 2018. Selon le professeur Laurent Nico du CHUV, la perturbation de l'équilibre de la population bactérienne à l'intérieur des poumons peut être la cause d'une inflammation comme la pneumonie. Alors les virus, ceux du rhume ou de la grippe par exemple, sont les perturbateurs les plus fréquents, mais la fumée et la pollution en sont d'autres. Voilà encore une bonne raison de se préserver d'un air pollué. Et à ce propos d'ailleurs, je vous rappelle que le mois de novembre est le mois sans tabac, qu'on se le dise.
Affranchi comme une carte d'un timbre sur l'épaule droite, c'est la traversée du désert. Je viens d'écraser la dernière, comme un grand coca glacé sous la canicule d'été qu'on vous empêcherait de boire et sur lequel on peut s'asseoir. 24 heures sur 24, la blessure arbitraire, la convoitise opiniâtre d'une bouffée salutaire. J'ai beau mâcher des trombones et tordre des clous à cette idée qui se cramponne, j'aimerais tordre le cou. C'est décidé, j'assume, déterminé, j'arrête.
Je ne fume plus une cigarette. C'est sympa de m'accompagner dans le renoncement du vice. Tout le monde m'a félicité, à part Philippe et Maurice, qui m'attendent au tournant quand j'irai en cachette, désespérément craquer l'allumette. 1, 2, 3, 4 jours sans tabac, c'est pas beaucoup certes, mais dans 26 ça fera un mois. On me trouve légèrement irritable et je me demande bien pourquoi. Sans doute parce qu'il est ratable, j'ai défenestré le chat. C'est décidé, j'assume. Déterminé, j'arrête. Je ne fume plus une cigarette. Adieu ma blonde, je t'aimais bien, mais tous les deux c'est plus possible. Je suis venu te dire que tu t'en vas, notre amour est nuisible. C'est écrit en gras sous le dromadaire orangé qui regarde narquois les caisses de l'État engranger. Ça part en fumée, et ça part en fumée. Quelle tristesse, c'est pas gai, tous ces terres pures qui s'infiltrent. Sans vouloir mégoter, ma vie ne tient plus qu'un filtre. Je regrette le temps jadis où j'occupais mes doigts et trouver consistance sans forcément prendre du poids. À combler le vide d'air par le contenu du frigidaire, je céderai mon trône pour un mégot, mon royaume pour un chameau. Et si je déclarais forfait en plein milieu du match, personne pour me dire échec et patch. La 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 la.
Voilà, c'était Aldebert, la complainte de l'ex-fumeur. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'arrêter, mais on y arrive, et en pensant d'abord à sa santé, bien sûr, et puis pourquoi pas un petit peu aux autres aussi. On fait donc attention à sa santé. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Je vous encourage donc à bien vous porter pour rester en pleine forme. Et bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Et puis si vous voulez rester avec moi, pourquoi pas tout de suite après la petite page de publicité, ce sera Kaléidoscope, une émission dédiée, comme vous le savez, à la musique et à la chanson. Encore une fois, très très bonne matinée à vous.